Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Bonjour. Une nouvelle émission sur Divergence FM, elle s'appelle « Racontez-nous votre Montpellier ». Ma première invitée, c'est Hélène Mandrou. Vous êtes une Montpelliéraine pur jus, vous y êtes née, vous n'avez pas cessé d'y vivre, vous y avez travaillé comme médecin, vous y êtes engagée comme élue, vous avez même incarné cette ville, j'allais dire porté son drapeau comme maire pendant 10 ans, sauf erreur, de 2004 à 2014. Hélène Mandrou, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation et d'essuyer avec moi les plâtres de cette émission en participant à la première de Racontez-nous votre Montpellier. Quelle est l'idée de cette émission, le principe de la conversation que je vous propose? Évoquer le Montpellier que vous connaissez intimement, nous parler des lieux marquants dans votre histoire personnelle, professionnelle et publique, décrire les multiples liens noués avec Montpellier. Et ainsi tracer, à votre manière, votre portrait de notre ville, un portrait particulier, sensible, peut-être inattendu. Alors, Hélène Mandrou, vous me l'avez dit lorsqu'on a échangé au téléphone il y a quelques jours, vous êtes née dans le quartier Saint-Roch. Alors, j'imagine que les premiers souvenirs, les souvenirs que vous avez des lieux qui vous ont marqué dans votre parcours, c'est Saint-Roch et son quartier.
Mais écoutez, tout d'abord, merci de votre invitation. Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch. J'y ai passé les...
Dans quelle rue, alors vous avez...
Rue du Petit-Saint-Jean.
Ah, rue du Petit-Saint-Jean.
Enfin, je suis née à la maternité, mais mes parents habitaient rue du Petit-Saint-Jean. Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie. Ce qui explique, du reste, qu'une des premières manifestations, j'allais dire, de mon mandat de maire dès 2005, je crois, vous avez un trompe-l'œil devant l'église Saint-Roch.
Oui.
Voilà. Et je suis totalement responsable de ce trompe-l'œil.
Ah,
et
d'accord.
Je vais vous dire pourquoi j'en suis responsable. C'est parce que c'est ma place. J'y ai passé les 10 premières années de ma vie et ma place, je ne la reconnaissais pas. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez ce trompe-l'œil devant Saint-Roch.
D'accord. Alors, voilà. Les Montpelliérains, bon, nouveau ou
voilà,
anciens...
Voilà, voilà pourquoi vous avez ce trompe-l'œil de Saint-Roch devant l'église Saint-Roch.
D'accord.
Voilà.
Et à quelle école alliez-vous, alors?
Alors, toute petite, c'était l'institution Marc Aurèle, qui n'existe plus. Aujourd'hui, quand vous avez l'église face à vous, c'est sur en haut à droite, il y a une pharmacie.
Oui.
Et la pharmacie est en contrebas. Donc, le contrebas, c'est la cour. C'était la cour de l'institution Marc Aurèle. Et j'y suis restée, j'ai dû y faire l'équivalent d'un CP, CE1, et au niveau du CE2, parce qu'à l'époque, on parlait de 10e, 11e, 9e, enfin, on ne disait pas... Et je suis passée après à Clémenceau, au lycée 2, jeune fille. J'ai dû partir à Clémenceau au niveau du CE2, et jusqu'au bac. Voilà. Donc, je connais très, très bien ce quartier, mon quartier de naissance.
D'accord. Donc, vous y avez des copines, vous aviez des activités...
J'avais un souvenir dans cette... toujours, quand on continuait à monter cette rue, la rue du Petit-Saint-Jean, et qu'on allait vers la rue Saint-Guilhem, à gauche, il y avait quelqu'un... Alors, les vieux Montpelliérains connaissent Cap de Pont. Cap de Pont, c'était une crèmerie. C'était la meilleure chantilly de tout le quartier.
Tous les gourmands connaissaient ça.
Et quand j'y allais, le monsieur Cap de Pont, qui me connaissait bien, donc j'étais toute petite, et il avait une petite coupelle, il me la remplissait de chantilly. Je repartais dans la rue avec ma coupelle de chantilly jusque chez moi et je mangeais ma chantilly.
Un traitement privilégié.
J'avais un traitement privilégié tout de suite. Vous voyez, dès ma naissance, j'ai eu un traitement privilégié. Oui, non, c'est vrai que c'est un quartier très agréable à vivre. Donc, entre Saint-Guilhem et Grand-Rue, vous voyez, donc c'est quand même un axe très important. Et je crois que c'est vrai, j'y ai passé de très bons moments.
Alors, bien sûr, il y a beaucoup de commerce.
Beaucoup, et oui. Entre Saint-Guilhem et Grand-Rue, vous voyez, c'était vraiment... Et il y avait aussi un peu plus loin, après, il y avait à l'époque, parce qu'à l'époque, on n'achetait pas le vin à la bouteille. Et il y avait donc, effectivement, un peu plus loin, dans cette rue du Petit-Saint-Jean, il y avait un endroit où il y avait des tonneaux et les gens allaient chercher, avaient leur bouteille, mais ils allaient chercher le vin au tonneau. Donc ils allaient au tonneau et on faisait couler le vin dans la bouteille et on repartait avec sa bouteille. Ça faisait quelques économies de verre, dirions-nous.
Alors, le quartier, bien sûr, a beaucoup changé au fil des années.
Est-ce que, Il a gardé un peu son intimité.
Voilà, oui, c'est ça. Est-ce que dans la nostalgie qu'on peut avoir sur les lieux de son enfance, cette évolution
positive... Non, je pense que, en dehors de l'institution Marc Aurèle qui n'existe plus, mais juste en face, il y a ce restaurant indien, là, qui est juste en face. Non, je pense que le quartier a su rester un peu ce qu'il
était. Il n'a pas été dénaturé à vos yeux.
Non. Pierre, vous allez un peu plus, vous avez Saint-Côme, donc la place Saint-Côme, tout ça. Non, je crois que c'était un quartier où, à l'époque, il y avait notamment, vous savez, les hospitaliers, il y avait beaucoup d'ordre autour de Saint-Roch. Là. Non, c'est un quartier, je crois, qui est... Juste là où j'habitais, en face, il y avait une école, il y avait une cour d'école. Non, le quartier n'a pas trop... Il fait partie, certainement, du démarrage. Vous savez, Montpellier est né en 950, et il y avait la commune clôture, et donc, autour de Saint-Roch. Donc, je veux dire, ce quartier est un quartier ancien pour la ville de Montpellier. Non, les grands bouleversements ne se sont pas produits là. Ils se sont produits quand une population s'agrandit, les gens vont vers l'extérieur de plus en plus, en circonférence, ça augmente. Voilà, non, c'est un rock.
Après, le lycée Clémenceau, donc, qui était, comme vous le rappelez, à l'époque, un lycée exclusivement de jeunes filles.
Ah, c'était le lycée de jeunes filles, et il y avait le lycée de garçons, par contre, c'était Geoffrin.
C'est ça.
Voilà, donc les filles, on était à Clémenceau, et les garçons, en fait, la mixité, on trouvait, pour ceux qui continuaient leurs études, évidemment, on trouvait la mixité qu'à la faculté. C'était le premier contact qu'on pouvait avoir avec nos collègues masculins.
Alors, le lycée Clémenceau, dans la rue du même nom, vous avez des souvenirs, là aussi? Ça a été une époque où on évolue beaucoup physiquement, psychiquement, de l'adolescence, quoi, notamment.
C'est sûr que c'était... Bon, donc, un lycée de jeunes filles. Après, dans un deuxième terme, entre-temps, mes parents, moi, se sont séparés. J'avais 14 ans.
Donc, ça a été une...
Donc, c'est une période que j'ai vécue...
Un peu difficile.
C'était une période un peu difficile. Donc, je vivais donc à Clémenceau. Mes études à Clémenceau. Et cette époque-là, ma maman, donc est-ce que je suis restée avec ma maman, habitait vers le plan des Quatre Seigneurs. Je ne sais pas si vous voyez le plan des Quatre Seigneurs, Clémenceau. Hein, vous voyez un peu ce que ça pouvait donner.
Toute la ville à traverser.
Voilà. Donc ce qui fait qu'en fait, j'étais demi-pensionnaire. D'accord. Donc je passais mes journées à Clémenceau en tant que demi-pensionnaire. Et c'est vrai qu'on avait une directrice qui s'appelait à l'époque Madame Durand. Et j'ai su appeler la directrice, vraiment, on avait un censeur, on avait attention. L'ordre régnait à Clémenceau. Et je me rappelle, à l'époque, donc j'appartiens à la majorité des personnes qui avaient la majorité à 21 ans.
Oui.
Et je me rappelle qu'au niveau de l'année de mon bac, c'est pour vous dire quand même que ça évolue lentement, mais ça évolue quand même. L'année de mon baccalauréat, il y a une des filles de ma classe qui s'est retrouvée enceinte. Et elle a été renvoyée du lycée.
Ah oui, parce qu'à l'époque, c'était un scandale.
Voilà, c'était donc elle a été renvoyée, donc elle n'a pas pu finir son année pour passer son bac. Mmh. Ouais, bon, ça évolue lentement, mais ça évolue. Et il y a une anecdote, quelque chose dont je me rappelle beaucoup, c'est avec maintenant, en regardant avec le temps. En quatrième, j'étais le chef de classe.
Ah. Oui. ça, franchement, je
ça
relis.
Ça devait commencer.
Les élus qui ont commencé en étant successivement chef de classe, délégué de classe, ça, il y a des vocations pour agir au nom des autres.
Et c'est vrai que c'est maintenant que je le réalise. Mais quand donc en quatrième, j'étais chef de classe. Et je vais vous raconter une anecdote, là aussi, qui montre quand même que la société bouge. On avait notre professeur de maths qui était en vacances, donc remplacé par une stagiaire. Donc les maths, c'est quand même très, très, très sérieux. Oui. C'est une matière sérieuse, quand même. Et c'est vrai que cette stagiaire était un petit peu... Bon, et la classe commençait à s'agiter. Et vous voyez, il y avait l'estrade, le tableau noir à l'époque. Et à un moment donné, cette stagiaire, elle se retourne, elle nous dit « Si vous continuez, je m'en vais ». Et là, il y a une des filles de la classe qui se lève et qui dit « Mais mademoiselle, partez ».
Oula.
Et la demoiselle est descendue de son estrade et elle est partie.
Ah.
Dans la seconde qui a suivi, nous avons vu arriver la directrice, la surveillante générale. Je ne vous dis pas.
La hiérarchie n'avait pas apprécié cet incartable.
Qui a fait ça? Qui a dit ça? Silence. Pas un mot.
Solidarité immédiate.
Et là, vous allez voir, c'est vrai que c'est le premier mouvement de solidarité que j'ai vraiment vécu. Moi, la chef de classe, je ne bronche pas. Et donc, personne ne dit rien. Donc, la directrice, fortement mécontente de voir qu'aucune n'avait dit c'est elle ou qu'elle, elle avait dit c'est moi. Enfin, personne n'avait dénoncé. Et donc, un mécontentement dans la classe incroyable de la part de la directrice. Voyant que personne ne bougeait, pendant un ou deux jours, on n'avait plus de cours aucun. Ah, aucun professeur. Et la directrice nous condamne, toutes les filles. On nous a dit, pendant une semaine, vous n'aurez pas de cours. Pas de professeur, rien, aucun cours pendant une semaine.
C'est curieux comme punition.
Aucun cours pendant une semaine, c'est incroyable.
Parce que vous faire travailler, je ne sais quoi, vous retenues...
Incroyable, non. Donc, on n'existait plus. Cette classe de quatrième n'existait plus. Elle n'était pas dans le lycée, elle était hors champ, elle n'existait pas. Et donc, on n'a pas bougé. Et c'est vrai, une solidarité incroyable pour des gamines de quatrième. Et à la fin de ce... Un jour, la fille qui avait dit, mais mademoiselle, sortez, elle m'a dit, je vais dire que c'est moi. J'ai dit, ok, je parle avec toi. Et on est partis toutes les deux, voir la directrice. Et elle a dit à la directrice que c'était elle. Et évidemment, elle a été renvoyée. Et nous, on était en punition, on n'avait plus aucun cours.
Alors,
là aussi, voyez l'évolution.
Les auditeurs, les auditrices les plus jeunes apprécieront ce qui a changé quand même.
Ça change quand même. D'accord. Enfin, c'est pour vous dire, ce n'était pas toujours simple.
Alors, Hélène Mandeau, on poursuit ce parcours. La naissance peut-être d'une vocation, parce que être médecin, c'est bon, j'imagine que c'est la résultante, je dis, d'une envie, d'une réflexion, mais bon, c'est d'un appel, peut-être pour le mot un peu fort, mais vocation, ça veut dire ça. Comment ça s'est traduit, je veux dire, cette inclination
Les deux amis très proches de mon père étaient des médecins. Et comme je vous ai dit, mes parents sont séparés quand j'avais 13 ans. Et donc, c'est un de ces deux médecins, si vous voulez par là, qui a été un deuxième père pour moi. Donc, et du reste, qui était ces deux médecins étaient témoins de mon mariage.
Un mentor, on peut dire ça.
Oui, voilà, parce que mon père est parti à Paris quand ils se sont séparés même à Paris. Et donc, ces deux amis, donc, plus ou moins, ils ont remplacé un peu mon papa.
D'accord.
Voilà. Et donc, je vous dis, c'était même des témoins de mon mariage. Et donc, je pense que c'est leur contact. Je pense que j'ai très tôt appris à connaître l'esprit médical.
Le rapport avec les patients.
Voilà, très tôt. Et comme c'était deux personnes avec qui je m'entendais très bien et que vraiment je trouvais qu'ils étaient vraiment deux personnes. Pour eux, le serment d'Hippocrate avait une signification très forte. Vous comprenez ce que je veux dire?
La transmission de valeurs.
La transmission de valeurs, je pense que c'est là que je l'ai eue.
Qui ont contribué à vous structurer, j'imagine.
Oui, absolument.
Et qui ont duré, pour le coup.
Ça, c'est... Du reste, vous m'avez souvent entendu dire, je disais toujours, je suis médecin avant d'être mère.
En effet, oui.
Ça, vous m'avez souvent entendu dire. Je disais toujours, je suis médecin avant d'être mère. Mère, M-A-I-R-E. Oui, il faut bien me préciser.
Donc, la faculté de médecine, dans ses locaux historiques, j'imagine,
la faculté à côté de la cathédrale.
Voilà. Rue de l'École de
médecine. Qui a fêté ses 800 ans.
Voilà.
Qui a fêté ses 800 ans.
Donc là, vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Complètement. Et là, avec maman, on habitait rue de Gironde. Vous voyez, on s'était rapprochés quand même, heureusement. Parce que si c'était toujours au plan des quatre seigneurs, ça faisait un peu loin. Oui, donc, et maman, en plus, maman était premier clerc d'avoué, d'un avoué qui était sur la place de la Canourgue.
Oui.
Voilà, à côté du restaurant La Coquille, là-bas.
Voilà.
Et maman était premier clerc d'avoué, ce qui fait que là, c'est une deuxième partie de ma vie. Ben, je me promenais entre la place de la Canourgue et la faculté de médecine. Là, c'était pas mal quand
c'était
même.
Tout
voilà,
près.
Voilà, c'était tout près, les deux étaient côte à côte. Donc
dans le Montpellier historique, pour le coup.
Montpellier
médiéval, notamment.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Oui, donc là, puisque j'habitais rue Gironde, c'est derrière la préfecture. Ma maman travaillait place de la Canourgue et j'allais à la faculté de médecine. Donc, voyez, j'étais sur le quartier. Là, c'est
la fac, là aussi, c'est un parcours qui a duré 5-6 ans, je suppose.
La médecine, quand on sort du bac, à l'époque, il fallait d'abord faire une année, avant de rentrer en première année, on avait une année propédeutique. Et alors, beaucoup de personnes faisaient ce qu'on appelle le PCB.
Physique, chimie, biologie.
Pour entrer en première année de médecine. Mais il y avait aussi une année qui s'appelait SPCN, sciences physiques, chimie naturelle. Et j'avais ma maman qui n'avait absolument pas envie que je fasse médecine, parce qu'une fille en médecine, pour elle, c'était « Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !»
Ça lui faisait peur.
Oui, absolument. Et elle voulait que je fasse professeur de sciences naturelles. Donc, j'étais partie en SPCM, parce que j'étais encore mineure, là. J'étais mineure, hein.
Et oui, à l'époque, et oui, j'étais mineure. J'étais mineure. La majorité, c'était à 21. Vous aviez 18 ans.
18, ben, 19, ans, voilà. Donc, ça. J'étais mineure, hein. Et là, SPCN, alors SPCN, les deux PCB se passaient à la faculté des sciences. On n'était pas en fac de médecine, on était en fac de sciences. Et c'est vrai qu'SPCN était beaucoup plus difficile et beaucoup plus dur que le PCB qui permettait de rentrer en première année de médecine. Et
je
Ah oui,
on pourrait penser le contraire.
Non, non. À l'époque, c'est le SPCN était. Et alors, je ne sais pas, je bénis la personne, je ne sais pas qui c'est, qui un jour a dit à ma maman, vous savez, le SPCN, on ne le réussit jamais la première année, il faut toujours au moins redoubler pour l'avoir. Et ma chère maman, qui un jour me dit, mais écoute, Hélène, si tu l'as la première année, j'accepte que tu fasses médecine.
Ah.
Et ben voilà.
Feu vert.
Vous avez tout compris.
Feu vert.
Et c'est comme ça que je suis partie en première année médecine. Voilà.
Donc, autre lieu, autre rencontre, autre...
Ah ben là, oui, ben c'est, ça fait... Alors, donc, on fait d'abord donc, une année propédeutique. Après, il y a 6 ans pour devenir... alors, à l'époque, on pouvait redoubler une fois. Enfin, on pouvait redoubler une fois. C'est-à-dire que vous pouviez le passer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais après c'était terminé. Et donc, après les 6 ans, après donc, un an de propédeutique plus 6 ans, là, on était... généraliste. Et puis après la médecine générale, on pouvait faire autre chose, les spécialités.
Ce que vous avez fait.
Ce que j'ai fait, oui. Donc moi, j'ai donc fait propédeutique et 6, ça fait 7, plus 3 de spécialité, ça fait 10.
Anesthésie, c'est ça?
Oui, j'ai fait 10 ans après le bac.
D'accord.
J'ai même fait un certificat de médecin du sport.
Ah oui, ça c'est
j'ai mon certificat de médecin du sport.
Ça vous a servi?
Eh ben, oui, actuellement, je suis le médecin du water-polo.
Ah, d'accord.
Ouais. Ils avaient besoin d'un médecinage. J'ai même fait un certificat d'immunologie, c'est-à-dire que si j'avais voulu, j'aurais pu travailler comme allergologue.
D'accord.
Problème des allergies. Voilà.
Alors, votre premier poste de médecin, sauf erreur, c'est à Castelnau-le-Lez,
oui,
à la clinique du parc.
Oui, c'était à l'hôpital et au parc. La clinique du parc.
Donc là, encore, votre horizon s'élargit, même, y compris au-delà des frontières.
Il ben faut de dire qu'entre-temps, j'avais entre-temps marié 3 garçons quand même. Hein.
Ah, déjà? Vous avez des enfants très jeunes, donc
quand j'ai passé ma thèse, oui, j'étais enceinte du 3e.
D'accord. Donc, menée de front, les études.
Ça commençait à faire bousculer.
Les stages ou les séjours à l'hôpital ou ailleurs.
Ça commençait à bousculer.
Et bien sûr, la
famille. Ça bousculait un peu. D'accord. Du reste. Oui, parce que l'anesthésie, c'est une hyper spécialité, urgentiste, réanimateur. J'avais le professeur Duquelar.
Ah, qui est une figure.
Oui, et du reste, le professeur Duquelar était mon président de thèse. J'étais avec j'avais Thévenet, le professeur Thévenet, qui était aussi à l'époque des gens très j'étais anesthésiste de Marshall, j'ai fait des anesthésies
pour professeur Marshall,
j'ai fait des anesthésies à Henri Pujol, enfin voilà, je connais, voilà. Mais donc
du coup ça vous a donné c'est un réseau en tout cas.
Ah oui, mais là en médecine
un réseau
en médecine je connais pas mal de monde et de gens vraiment
qui ont marqué
la médecine à Montpellier. D'accord. Mais comme je dis, j'avais 4 hommes à la maison, c'est-à-dire un mari et 3 fils, et donc ça commençait à devenir très, très difficile de pouvoir faire marcher, avancer ça, c'est encore un problème très féminin pour beaucoup de femmes.
Donc, c'est ce
j'espère
qui vous a
que ça s'améliore. Et c'est là où j'ai donc arrêté mon activité d'anesthésiste et que je me suis installée en médecine générale, parce que mon mari était déjà installé en médecine générale à la Payade. Et donc j'ai arrêté, j'ai dit, bon, moi j'y arrive plus, et je me suis installée dans le même cabinet que mon mari en médecine générale. D'accord. C'est-à-dire que j'ai fait un chemin inverse de beaucoup de médecins.
Ça.
J'ai fait une hyper spécialité et je suis passée à la médecine générale. Je ne le regrette pas parce que la médecine générale, c'est passionnant. Voilà.
Et donc, la Payade, donc
c'est la Payade,
rien à voir avec Saint-Roch.
Ah non, ça, ou la clinique du parc,
clinique
ça c'est sûr,
parc,
c'est autre.
Pas la même ambiance. C'est et alors. Vrai. Parlez-nous de la Payade, parce que bien entendu, la gestion de ce grand quartier, vous avez dû vous en préoccuper.
Mais la Payade,
c'est
François Delmas qui l'a...
Le maire de l'époque.
Avant Georges Frêche. François Delmas qui était avocat, c'est lui qui était le maire avant...
Pour accueillir...
Oui, il y avait l'arrivée... En 62, il y avait l'arrivée des Pieds Noirs, ce qui est quand même tout ça. Et puis François Delmas, il ne faut pas oublier qu'il a eu la... C'est lui qui a amené IBM à Montpellier, donc il a fallu qu'il gère donc IBM. C'est IBM, à l'époque, c'était quand même très, très important. L'arrivée des pieds noirs, et donc effectivement, c'est comme ça qu'il a créé ce quartier de la Paillade, du côté de Celle-Neuve, là-bas.
Et vous êtes resté combien de temps, là, généraliste, à la Paillade ?
Eh bien, écoutez, je suis devenu maire en 2004 et j'ai arrêté mon cabinet janvier 2006.
Donc, ça veut dire que vous étiez, comment dire, enraciné dans ce quartier,
hein, ah,
que
oui,
vous
avez oui, appris à connaître. J'y ai même, les premières années, on avait le cabinet et l'appartement sur le même étage.
Ah, d'accord, vous habitiez la Paillade, ah, oui. D'accord. Ah, oui. Donc, d'accord.
Au début, on avait l'appartement en face du cabinet sur le même étage, au premier étage. Et puis, ce n'est que dans un deuxième temps qu'on a vendu l'appartement et qu'on est allé habiter, après, je suis allé habiter Juvignac. Donc, on avait le cabinet à la Paillade et on avait acheté une maison à Juvignac. Juste à côté, parce qu'avec les trois enfants, ça commençait à bousculer.
Alors du coup, ce que permet les fonctions de généraliste, de connaissance de la population, de sa vie quotidienne, plus le fait même que vous soyez habitante de la Paillade, j'imagine que ça vous a servi plus tard comme connaissance, pas distante ou livresque, de ce qu'est un quartier populaire et de la manière de le gérer quand on est élu.
Absolument.
Et une acquis, là.
Absolument. Du reste, moi, je sais que quand je suis devenue maire, je me rappelle un jour une dame qui est venue me voir, qui m'a dit « Ah, madame le maire, parce que vous êtes médecin, je vais vous dire que... »
Ah, d'accord. C'est le rôle de confident que les médecins...
Parce que vous êtes médecin, c'est-à-dire que cette personne, elle m'a dit... certaines choses qu'elle n'aurait jamais dit à un autre maire non médecin, parce qu'elle savait que moi, ce qu'elle allait me dire, j'allais l'écouter, mais que ça ne...
C'est-à-dire le rôle de confident que les médecins avaient, peut-être non plus tout à fait.
Je pense que le médecin, si vous voulez pas, en principe, le médecin aime les gens, ou alors on fait une autre... Moi, vous savez, j'avais une formule très forte et que j'utilisais très souvent, notamment auprès de mes... des fonctionnaires, mais auprès de mes hauts fonctionnaires, je leur disais surtout qu'il y avait des responsabilités dans l'urbanisme notamment, et je leur disais « mettez-moi de l'humain dans l'urbain ». C'était ma formule.
Oui, votre mantra, comme on dit.
Mettez-moi de l'humain dans l'urbain. Et du reste, je me rappelle, c'est à l'époque, il y avait Jules Nissen qui était, vous savez, voilà.
Directeur général des services.
Hein, oui, qui était, voilà, tout à fait.
De la ville de Montpellier.
Voilà, tout à fait. Et donc, je disais, mettez-moi de l'humain dans l'urbain. Et il me disait, mais madame le maire, vous auriez dû garder cette... vous auriez dû la déposer, votre formule. Mettez-moi de l'humain dans l'urbain.
Pas une approche uniquement technocratique, même si elle est experte.
Oui,
mais
non,
voilà,
non.
Mais
on comprenait ce que je voulais dire.
D'accord.
On comprenait ce que je voulais dire.
Donc, on a fait un pas vers vos fonctions électives qui se sont développées ensuite. Et avec, toujours cet itinéraire dans les lieux qui vous ont marqué, l'hôtel de ville, la mairie.
Oui,
mairie de l'époque. Et ensuite, la mairie actuelle.
La première, c'était la mairie de la place de la Canourgue.
C'est ça.
Puis c'est François Delmas qui est parti de la Canourgue pour aller donc, à la Comédie. Et puis, quand je suis devenu maire en 2004, Georges Frêche avait amorcé, effectivement, le déménagement.
Le nouvel hôtel de ville.
Voilà. C'est-à-dire, quand Georges Frêche est devenu président de région, donc, en 2004, le jury avait déjà eu lieu. Et donc, c'est Georges Frêche qui a choisi Jean Nouvel. Et puis, donc, il a été élu président de région. Et moi, je me suis retrouvé avec un dossier, Jean Nouvel, et puis...
Pour construire l'hôtel de ville.
Et puis, voilà.
D'accord.
Bon, j'avais un dossier, J'avais un joli dossier, mais après il fallait construire la maison, construire la mairie.
Donc, quand vous avez été maire, mettons entre parenthèses, vous aviez été conseillère municipale et adjointe, donc vous avez travaillé place Francis Ponge, actuellement, qui héberge la French Tech, là, entreprises.
Oui, tout à fait.
Et après, l'hôtel de Vigne, du coup, là aussi, alors du coup, vous avez passé beaucoup de temps dans ces lieux officiels, je suppose. Et qu'est-ce que vous en retenez après coup? Pas seulement, je dirais, en termes de bilan de votre action politique, on n'est pas tout à fait là pour ça, mais dans le rapport avec la ville, plus généralement, que ça vous a donné? Parce que du coup, quand on continue l'activité professionnelle, on a une responsabilité d'élu, on est en charge de l'intérêt général, est-ce que ça a modifié progressivement, en fonction des responsabilités que vous avez successivement, votre regard sur Montpellier, votre rapport à la ville, et pour le coup, pour ne pas oublier l'humain, avec les habitants, là, Qu'est-ce que vous...
C'est-à-dire, déjà, au départ, j'ai une profession qui est liée à l'habitant. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vrai que très tôt, j'ai été habituée à communiquer et à parler avec les hommes et les femmes qui étaient en face de moi pour des raisons de santé. Mais je pense que spontanément, je vais au devant des gens. Vous savez, des fois, on reproche aux élus d'être un peu retranchés dans leur bureau. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire, je caricature, mais c'est un peu ça. Moi, spontanément, j'allais au devant des gens. Et je peux vous dire, moi, personnellement, je trouve que le mandat de maire est un mandat, je pense que c'est passionnant. C'est entre un mandat de parlementaire et un mandat de maire, moi, je choisis le mandat de maire.
Beaucoup de maires qui ont
dit ça. Je choisis le mandat de maire. D'abord, c'est un mandat exécutif, c'est un mandat, c'est toi qui décides, c'est toi qui fais. Et puis, si tu aimes les gens, je crois que... Et puis, ce qui est passionnant, c'est que tu t'occupes aussi bien tu t'occupes du quotidien. Tu t'occupes pratiquement du premier jour où les gens arrivent, c'est-à-dire puisque tu as la responsabilité des crèches, et tu accompagnes les gens jusqu'à la fin de voilà. Et tu représentes donc le quotidien, et puis en même temps, tu vas représenter ta ville au national, à l'international, si besoin est. Donc c'est un éventail de la vie, en fait. Oui, vous comprenez ce que je veux. C'est un enrichissement. Et moi, toujours, je disais toujours que je suis quelqu'un qui respecte profondément l'autre dans sa différence. Toujours. Moi, c'est un discours que je tenais régulièrement. Et je disais justement cette différence, cette différence qui m'enrichit. Et je crois que ce que je retiens de mes 10 ans de mandat de maire, c'est justement cela. Si j'étais restée médecin, Dieu sait si j'adore la médecine, mais je rencontrais beaucoup de médecins, vous comprenez ce que je veux dire? Évidemment. Et de quoi on parlait? De médecine. Tandis que là, ces 10 ans m'ont permis de rencontrer des tas d'hommes, des tas de femmes issus de milieux différents, issus de nationalités différentes. Vous comprenez ce que je veux dire? Avec des niveaux de vie différents. Et tu apprends la vie. Tu comprends mieux encore ce qu'est la vie. C'est ça. Moi, c'est ce que je retiendrai certainement de mes 10 ans de mandat. Ça m'a énormément enrichi.
Donc, cette espèce d'horizon élargi.
Tout à fait.
Vaut aussi pour la ville, que vous avez appris à mieux connaître les différents quartiers.
Moi, pendant mes 10 ans de mandat, Montpellier a gagné à peu près 4000 habitants par an. On gagnait 4000 habitants
c'est-à-dire
par an.
C'est-à-dire la croissance démographique qui a marqué la ville profondément a commencé à ce moment-là.
Ça avait commencé avant quand même. Ça avait déjà commencé, comme je vous dis, avec l'arrivée des Pieds Noirs. Et déjà, ça, c'était sous François Delmas. Puis ça a continué avec Georges Frêche. Et moi, en tout cas, pour mes 10 ans, je vous dis, on a gagné 4000 habitants de plus par an. J'ai 40 000 habitants de plus.
Voilà. Donc, il fallait les loger.
Des commerces, des moyens de circulation, changer le sens des rues si besoin. Mais c'est justement ça qui est formidable. Et vous savez, aujourd'hui, donc je suis partie en 2014. On est en 2020, ça fait quand même 8 ans. Et 8 ans après, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai des Montpelliérains quand ils viennent qui m'arrêtent, qui viennent me voir. Ah, Madame le maire. Ça
n'a pas de prix.
Ça n'a pas de prix, exactement. Ça n'a pas de prix. L'autre jour, il n'y a pas longtemps, c'est il y a 3 jours, donc c'est pour ça que je me rappelle, une maman avec une belle jeune fille, elle vient vers moi, elle me dit, vous savez, ma fille, elle a une photo où elle était toute petite et elle avec vous, donc elle avait 5-6 ans. Alors lui, ça doit faire. Et alors, elle me dit, on peut faire. Et alors, on a fait la même photo. La fille voulait faire à nouveau une photo avec moi, mais 15 ans après, vous voyez ce que je veux dire? C'est magnifique.
Alors, Hélène Landreau, nous arrivons au terme de notre échange, on a encore un peu de temps. Je souhaite que vous nous disiez à nos auditeurs, là, quels sont des lieux de Montpellier, des endroits, encore pas nécessairement ceux qui sont dans les brochures de l'Office du tourisme ou dans les cartes postales, pour lesquels vous avez un attachement ou un goût particulier, quoi.
Déjà, c'est rock, ça vous l'avez compris. Ça, c'est resté. Autrement, dans les lieux que... J'aime bien l'esplanade, mais j'allais dire, j'aimais bien l'esplanade... Avant qu'elle
soit qu'elle change un peu d'aménagement et peut-être d'usage aussi.
Voilà. Et c'est vrai que l'esplanade, c'était un endroit assez...
L'esplanade des promenades.
Voilà, l'esplanade-promenade, c'était un endroit qui était magnifique. Autrement, vous avez un endroit que les gens connaissent peu, c'est dommage, c'est le Jardin des Plantes.
Oui.
Les Montpelliérains ne connaissent pas le Jardin des Plantes. Et là, ils découvriraient un arbre, le fameux arbre, vous savez, l'arbre des vœux.
Oui, l'arbre des vœux.
Des vœux, voilà. Vous prenez un petit bout de papier, vous marquez votre vœu et vous le glissez dans la fente de l'arbre. Et ce jardin des plantes appartenait à la faculté de médecine à l'époque. Et je reconnais que ça, c'est un endroit que les Montpellierains, un endroit de calme et de paix. Et je pense qu'à l'époque à laquelle on vit, on a besoin de temps en temps de s'asseoir sur un banc, sans agitation autour de soi et de respirer.
Très bien, je vous remercie madame de cette invitation à la découverte, la redécouverte du jardin des plantes. Merci à vous.
Mais merci de votre invitation et bonne journée.
Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
C'était Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès sur Divergence FM.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.